Point fixe, ma guerre d'Algérie.
Daniel Simon, dialogue avec Marie-Hélène Dupuy. Ce que l'on appelle aujourd'hui en France « guerre d'Algérie », la reconnaissance de ce terme ne date que de 1999, mais que l'on a longtemps simplement appelé « les événements d'Algérie », pour en nier le caractère guerrier, et que les Algériens appellent « guerre de libération nationale », s'est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie, alors colonie française depuis 1830. Cette guerre s'est achevée le 3 juillet 1962 avec la reconnaissance de l'indépendance du territoire. De 1954 à 1962, un nombre croissant d'appelés du contingent fut envoyé en Algérie pour des opérations dites de maintien de l'ordre ou de pacification. Pendant cette période, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés qui participeront à ces opérations et viendront s'ajouter à 407 000 militaires d'actifs. Il faut noter que parmi ces appelés, 12 000 ont été déclarés réfractaires, dont 10 831 insoumis, ce sont des appelés qui ne se sont pas présentés lors de leur appel, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. Enfin, la durée du service, qui était de 18 mois jusqu'en 1957, est ensuite passée à 30 mois. Parmi ces nombreux appelés, Daniel Simon, né en 1941 et qui fut appelé sous les drapeaux, comme on disait à l'époque, le 15 mai 1961, à l'âge de 20 ans. Daniel, qui a accepté de raconter sa guerre et avec qui je vais dialoguer tout au long de ses chroniques. Bonjour Daniel.
Voilà, bonjour.
Eh bien, on se retrouve pour cette sixième séquence de Point Fixe, l'émission de dialogue que nous avons ensemble autour de ton expérience pendant la guerre d'Algérie. Alors, on a parlé de beaucoup de choses déjà, et notamment de tout ce que tu as pu vivre en tant qu'infirmier, donc pendant cette guerre, infirmier dans un camp à Djelfa. Tu nous as parlé, bien sûr, de différentes phases de ton travail. Mais ben, tu as eu également, quand même, pendant ces 20 mois que tu as passé, quelques permissions. Et ces permissions t'ont permis de découvrir le pays. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
Oui, alors le sud, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller dans le sud pour voir un petit peu la région, quoi. Je suis allé...
Tu partais tout seul ?
Oui, je suis parti tout seul en faisant du stop.
D'accord.
Et donc, ça marche bien sur le stop là-bas. Et donc, je suis allé à la Gouate d'abord. Alors, donc, la Gouate. Et puis, ensuite, à Gardaïa. Et donc, là-bas, à côté de Gardaïa, il y avait ce qu'on appelait des Arabes qui étaient ce qu'on appelait des Mozabites, qui habitaient donc la région du Mzab. Et ces Mozabites sont des religieux très, très sérieux, quoi, qui appliquent la religion d'une manière très stricte. Et donc, moi, je voulais un peu aller voir ça. Donc, je suis allé voir ces Mozabites. Là, tu ne vois jamais les femmes parce qu'elles sont enfermées dans leur cuisine et elles n'en sortent jamais. Moi, je suis rentré dans une pièce un jour, mais ce n'était pas la cuisine, c'était une pièce d'entrée. Et donc, on m'a passé un verre de thé, je crois, ou quelque chose comme ça, oui, par une petite lucarne. Et moi, je ne suis pas allé plus loin que ça. Donc,
quels étaient tes rapports quand même avec la population ? Comment ça se passait ?
Non, les gens étaient quand même... ils commençaient à... C'est étonnant, mais à mettre des fraisiers. Parce que y avait une région où ils soutiraient l'eau de puits qui venait d'assez profond. Et donc, ils voulaient commencer à faire de la fraise. Ça paraît étonnant. Et donc, moi, je suis intéressé à ça. Je suis un peu allé voir. C'était des rapports essentiellement. Comme moi, j'étais dans l'agriculture, je connaissais un petit peu. Donc.
D'accord, en parlant de métier, finalement, ça allait, quoi.
Oui, ouais. Mais enfin, on ne peut pas sortir de là. Et puis, bon, les Mozabites, ils surveillent quand même, hein, et ils t'ont un peu à l'œil parce qu'ils surveillent leurs femmes. Ils font attention. Donc, voilà, les rapports sont de rapport. Le seul endroit qui était un peu plus sympa, c'était Gardaïa. Gardaïa, c'est une belle ville, avec une belle place centrale, avec un marché d'ailleurs, une fois par semaine. Et donc, c'était intéressant, le marché de Gardaïa, je suis passé. Et puis, bon, c'est tout. Hein. On était quand même les ennemis, hein, on était quand même les Français, donc les rapports sont pas évidents, quoi. C'est,
bien sûr. Voilà. Mais ça se passait quand même bien pour toi.
Oui,
ça s'est pas eu de problème.
Non, j'ai jamais eu de problème. Non. Même en descendant dans le sud, où c'était une région qui était quand même gardée militairement par les Français pour ces histoires de gaz et de pétrole, et puis pour les premiers essais aussi nucléaires qui ont été faits là-bas. Donc, non, c'est bien passé. Moi, je partais quelques jours comme ça, puis je suis rentré à Djelfa et j'ai repris mon métier de soigneur en allant chercher les blessés.
Donc tu es allé aussi à Assi Messaoud, c'est là où il y a les...
Assi Messaoud, oui.
Les gisements de gaz, c'est
voilà,
ça, de pétrole.
Et de pétrole. Donc c'était le début, là les Français avaient trouvé ça, et donc je sais que pour les négociations à Évian, au début, on a essayé... contre les Algériens qui maintenant étaient chez eux, ils ont essayé de garder cette région-là. C'est-à-dire la France a essayé de garder la région sud, là.
Mais oui, parce qu'elle était riche
en ressources. Bien sûr, et puis on commençait aussi les essais nucléaires, il y avait du gaz, il y avait du pétrole, donc on voulait isoler ça. Alors, les Félagas, enfin les anciens Félagas qui étaient donc maintenant devenus les chefs d'Algérie, ils n'ont pas lâché. Ça a été dur, une période difficile. Il y a eu pas mal de retours entre Paris et Évian là-dessus avec le général de Gaulle. Et donc, le général de Gaulle, il a laissé tomber. Il a abandonné et on a laissé toute l'Algérie aux Algériens.
Voilà, bon, mais donc déjà, tu commences à parler de la fin de la guerre et,
oui.
des accords d'Évian. Mais donc, toi, tu es encore là-bas. Tu es là-bas, tu y es depuis combien de temps
Donc, moi, je suis resté que 20 mois là-bas.
D'accord.
Parce que j'ai fini par fondre les plombs, comme on dit, parce que c'était vraiment trop dur. Et donc, je suis allé voir un médecin. À l'hôpital d'Alger, et je le connaissais, l'hôpital El Kettar, il s'appelle. Et je suis allé voir ce spécialiste-là, c'était un neurologue, je crois. Il m'a dit, bon, allez, je vois que vous n'en pouvez plus, je vais vous classer 3B. 3B, j'ai été donc classé... personne ayant un peu de problèmes au niveau de la tête. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah, allez, vous allez rentrer par le prochain retour. Et donc, j'ai été mis dans un avion et je suis arrivé en France métropolitaine. Là, ils m'ont envoyé à Rennes, à l'hôpital de Rennes, pendant quelques jours. Puis, ils ont vu que ça allait bien, quand même. Alors, je suis rentré chez moi. Et je me rappelle de cette période-là, parce que j'avais toujours mon sac à dos avec moi. Un gros sac bleu, un énorme sac, que je portais obligatoirement sur l'épaule. Je me baladais avec tout ce grand sac, et avec tout ce qu'il y avait dedans. Du début à la fin de la guerre, j'ai porté ce sac.
Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qui t'a fait péter les plombs, comme tu dis ?
Ce qui m'a fait péter les plombs, c'était cette sensation d'injustice, quoi, d'énorme injustice, parce que je me rendais quand même bien compte que les gens, ils défendaient leur pays, ce qu'ils voulaient, devait être leur pays, et face à ça... Eh ben, on a joué une carte mortelle, quoi, parce que Moi, ce qui m'a fait plus péter les plombs, je crois, c'est ce que l'armée a fait dans Alger même. Parce qu'ils ont fait couler, et je crois que c'est ça qui m'a fait lâcher, ils ont fait couler de l'essence ou du gasoil en haut des petites rues qu'il y a dans c'est plein de petites rues à Alger. Et donc, ils ont fait couler de l'essence ou du gasoil là-haut. Ils ont mis le feu à ça. Et donc, l'essence a descendu les rues comme ça et a brûlé tout ce qui avait à brûler. Et donc, moi, je pouvais plus, quoi. C'était un ensemble de choses.
Mais il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Enfin, ça termine là-dessus. Tu es rentré donc à quel mois tu es rentré?
Alors, juillet 62. Juillet ou août 62.
Merci beaucoup dans tous les cas, Daniel, de nous avoir raconté cette expérience. On rappelle que tu avais 20 ans.
Oui.
Et c'est pas rien à 20 ans de vivre ça. Et c'est très émouvant pour nous, pour moi, en tous les cas, de t'avoir écouté et d'avoir pu comme ça dialoguer avec toi et que tu nous racontes cette guerre. Encore merci beaucoup.
Avec plaisir. J'espère que ça profitera à tous les gens, à tous les jeunes, pour qu'ils sachent un petit peu certaines réalités qui ne sont pas très agréables à entendre. Voilà,
merci,
au revoir.
Merci beaucoup encore, au revoir. Les petits soldats au balcon séché de draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays. Ce n'était pas un port à faire du mélo, et pourtant je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. Par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer. Les petits soldats, nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on criait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays. L'Algérie, un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont je ne voulais pas. L'Algérie, c'est là que j'étais parti jouer. Les petits soldats, un beau jour je raconterai l'histoire à mes petits enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir 20 ans. L'Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays.